Bonjour à chacun, à chacune. Je suis vraiment content de me retrouver, Mélanie, de me retrouver parmi vous. On a pris une bonne semaine de congé en Alsace, là, dans les Vosges. Et j'ai eu la grâce de passer cette semaine aussi avec Jean-Marc Taubois, qui était venu ici. Je pense qu'on réinvitera de nouveau, parce que je pense que c'est vraiment un serviteur de Dieu qui a été donné au corps de Christ. Quelqu'un qui aime Israël, et quand on voit son parcours, il a, vraiment, c'est Dieu qui a conduit les choses pour qu'il aime ce pays, il apprenne la langue, et du coup, entre autres choses, il a contribué à la traduction de la Bible à la Colombe, et je crois qu'il ne faut pas se priver, hein, lorsque Dieu donne des ministères comme ça à son corps, et je pense qu'on aura l'occasion de le réinviter. Nous avons étudié cette semaine le livre de Daniel. Et en fait, dès la première séance, il y a un verset qui m'a touché. J'avais envie de partager un peu là-dessus avec vous ce matin. Lorsque Daniel, on va y revenir, à un moment, il est dit: Daniel, résolu dans son cœur de ne point se souiller avec les nourritures. Mais Daniel, résolu dans son cœur. C'est le titre de mon message ce matin. Comment cela nous touche. Daniel, résolu dans son cœur. Alors, d'habitude, je prépare mon message sur l'ordi, mais là, je n'avais pas l'ordi, donc j'ai fait ça sur mon cahier. Et puis quand même, hier soir, je me dis, bon, je vais essayer de remettre ça un peu au propre pour voir. J'ai vu que j'en avais pour une heure et demie avec vous, alors c'est un peu long, donc on va essayer de raccourcir, on va faire simple. Mais avant de lire le premier chapitre du livre de Daniel, puisque ça va être le texte de base de ce message, je voulais quand même qu'on se rappelle rapidement comment on en est venu là. On est dans le temps de l'exode à Babylone, très rapidement. On a le temps ce matin, c'est bien. Très rapidement, comment on en est arrivé là, pour bien comprendre ce que l'on va lire et ce qu'on va partager. Dieu s'est choisi un peuple à partir d'Abraham. Il a décidé, pour manifester au monde qu'il était, et on le sait, pour manifester aussi le plan du salut, il s'est choisi un peuple à travers Abraham, Isaac, Jacob, vous connaissez l'histoire, mais certains frères m'ont dit: Robert, il faut que tu rappelles de temps en temps ce qui apparaît des bases, parce que finalement nous avons des parcours assez différents, et les uns ou les autres n'ont peut-être pas lu tous les passages qui traitent de cela dans la Bible, alors je vais le faire assez simplement, mais repositionner aussi un peu l'histoire. Dieu suscite un peuple à travers Abraham, à qui il fait des promesses d'une descendance nombreuse. Il dira, tu seras le père d'un grand nombre de nations, et puis je te conduirai dans un bon pays. Donc il y a une promesse qui est attachée, qui renouvelle à Isaac, qui renouvelle à Jacob, et aux patriarches, les 12 qui seront le père des 12 tribus d'Israël. Dieu annonce tout de suite à Abraham que ce peuple connaîtra d'abord un temps d'exil et de déportation. Le premier exil du peuple hébreu, il est en Égypte. Vous savez que c'est la famine qui a amené Joseph à aller en Égypte, et puis ensuite toute la famille les a rejoints, ils se sont installés, ils se sont développés, et il nous est dit qu'à un moment, Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, a trouvé que ce peuple se développait un peu beaucoup et a commencé à l'oppresser. Et cet esclavage a duré 430 ans. C'était annoncé à Abraham. Et un jour, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Ça, c'est vraiment un premier point important. Dieu est au courant de nos vies, de toutes nos vies, de nos parcours, de nos errements, de nos fausses routes, des faux chemins, comme on l'a chanté dans ce chant. Il nous voit. Il connaît, et il y a des versets merveilleux. Il dit dans Exode 3, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Frères et sœurs, ce n'est pas le thème de mon message, mais on a besoin de savoir ça. Dieu est parfaitement au courant de nos situations, de nos égarements, de nos souffrances. C'est la première chose qu'il dit dans Ésaïe 53, il a pris sur lui nos souffrances. Il va nous en montrer la cause, etc., mais il les connaît. Il y a quelque chose là qui est important. Personne n'est oublié. Il nous connaît. Et il va j'ai vu la souffrance de mon peuple, et maintenant, ça y est, j'ai décidé, j'interviens, je vais le faire sortir de là. Et il va rappeler d'ailleurs dans l'Exode 20, là, avant de donner les 10 commandements, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà le Dieu du peuple d'Israël. Et j'aime à citer l'Ancien Testament, parce qu'il y a tellement une vision qui est encore très répandue, que l'Ancien Testament, c'est un Dieu de guerre, etc., etc. C'est un Dieu qui aime. Un Dieu qui aime, qui connaît ses créatures, il les a toutes créées, et nous l'avons rappelé, le salut, il est pour tous, l'œuvre de la croix, elle est éternelle, il est pour tous. Dieu donne des instructions, ses commandements à son peuple pour qu'il sache se conduire et rester en relation avec Dieu, et on sait que le peuple qui est prompt à s'éloigner de Dieu va sans arrêt s'éloigner. Je vais très vite, nous avons ensuite, le peuple est sorti d'Égypte, il y a un temps au désert, où Dieu conduit son peuple par une colonne de nuée le jour, par une colonne de feu la nuit, et il va le conduire jusqu'au pays de la terre promise, Canaan. Il va y avoir un temps de conquête qui va s'étaler là aussi sur à peu près 500 ans, depuis Josué jusqu'à Samuel, le dernier juge. Un temps de conquête qui va bien démarrer et qui va ensuite continuer laborieusement, parce que le temps des juges, c'est un temps particulièrement triste, si l'on veut prendre par là, parce qu'on va voir ce peuple qui se décourage, qui retourne sans arrêt. Il y a une constante, retourne sans arrêt vers les nations voisines qui ne connaissent pas Dieu, qui n'en veulent pas. Il retourne sans arrêt vers des idoles. Et puis, il est dans le désespoir et dans la ruine parce que des dominations viennent sur lui. Nous avons cité à travers ce chant Luc, le chapitre 1er, le cantique de Zacharie. Il a promis de nous délivrer de nos ennemis pour que nous le servions sans crainte. Et Dieu accomplit toujours sa promesse. Il veut délivrer, mais nous retournons. Et nous avons un cycle que l'on voit dans toute la Bible du peuple des Hébreux, et il faut bien le dire, bien souvent dans l'histoire de l'Église, de leur trouver la même chose. Une alliance avec les nations, avec les autres peuples, avec l'esprit du monde, l'idolâtrie, puis l'endurcissement, puis la patience de Dieu qui se manifeste parce qu'il patiente, il avertit de toutes sortes de manières. Et puis, il y a des jugements. Quand je parle de jugement, je ne parle pas du jugement dernier, c'est une autre histoire. Et puis, derrière ces jugements, souvent, enfin, viennent la repentance et puis la restauration. Le livre des juges se termine par cette phrase terrible. « En ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Après les périodes des juges qui se terminent avec Samuel, le peuple veut un roi comme les autres nations. Pour certains, c'est sans doute une redite, mais vous allez voir pourquoi je prends ce temps. La période des rois débutera donc par l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham concernant le bon pays promis, c'est-à-dire que la conquête va se terminer avec David, qui va conquérir Jérusalem, et Salomon, qui va instaurer la paix sur tout le territoire. Et c'est une période de prospérité, d'ailleurs que des reines de l'étranger, la reine de Saba viendra et dit, j'avais entendu parler de Salomon, mais ce que j'ai vu, c'est au-delà. Et ce n'est que Salomon. Salomon qui va chuter, on le sait. Qu'est-ce à dire de ce qu'est le royaume de Dieu qui nous est promis? Parce que la bonne nouvelle, c'est la nouvelle du royaume de Dieu. Salomon établit les choses, c'est la paix, et de nouveau, nous allons avoir une lente descente vers ce qu'on peut appeler une apostasie quasiment, qui va s'étendre là aussi sur, grosso modo, 300 ans pour le royaume d'Israël, où de roi en roi, vous connaissez le livre des rois, le livre des chroniques, bien souvent on entend, un tel devint roi et il fit entièrement ce qui déplaît à l'Éternel. Quelques-uns, il y a eu des temps de réveil, des hommes qui toujours sont revenus aux Écritures et se ont rendu compte combien ils s'étaient égarés. Et ils reviennent. Mais globalement, cette période des rois, où pourtant Dieu envoyait des prophètes pour avertir, pour dire « revenez ». Une petite parenthèse autour du prophète, notamment du prophète de l'Ancien Testament. Le message du prophète est toujours le même. Il est toujours le même. Il est extrêmement simple. Repentez-vous et revenez. Et effectivement, le prophète va annoncer des choses, mais des choses conditionnelles. C'est-à-dire, si vous vous repentez et si vous revenez, les choses que je vous annonce ne se produiront pas. Mais si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui va se produire. L'annonce du prophète est toujours conditionnelle. Son message central, c'est « repentez-vous et revenez ». Si vous vous repentez, c'est « voilà, les choses vont s'arranger ». Sinon, il y aura effectivement le jugement de Dieu. Un rôle difficile que celui du prophète. Quand on pense à Jonas, qui finalement a réussi dans sa mission, puisqu'il a annoncé la destruction de Ninive et qu'elle n'a pas eu lieu. C'est difficile, le prophète. D'ailleurs, on voit bien, Jonas veut pas y aller. Parce qu'il dit, je connais ce Dieu, il est miséricordieux, il est capable de leur faire grâce. Et le roi de Ninive, quand il entend l'annonce de la destruction, que dit-il? Repentons-nous, prenons le sac et la cendre. Car qui sait si Dieu ne se repentira pas du mal qu'il a résolu de nous faire? Et c'est ce qui se passe. Complexe d'être prophète. Il y a des prophètes qui ont accompli, qui ont obéi à Dieu. Et on a notamment Jérémie qui va annoncer, reprendre. On pourrait dire il a échoué parce que finalement, le peuple ne s'est pas repenti et le jugement de Dieu est tombé. Et nous y voilà, ça va être les exils. D'abord l'exil d'Israël. Israël, les 10 tribus du Nord. Vous savez, hein, au moment de Salomon, il y a eu une division du royaume après Salomon. Dieu ne l'a pas fait du temps de Salomon parce qu'il avait fait la promesse à Salomon qu'il ne diviserait pas le royaume. Mais à cause de l'idolâtrie, de la dérive totale de Salomon, il annonce que ce royaume sera divisé. 10 royaumes, 10 tribus au Nord qui très vite vont plonger dans l'idolâtrie parce qu'ils ne voudront pas venir à la capitale Jérusalem, là où Dieu a ordonné qu'on lui rende un culte. Ils créeront un propre culte avec des prêtres qui ne sont pas issus de la tribu de Lévi. Et l'idolâtrie ira très vite au niveau du royaume d'Israël. Et ça aboutira à la déportation en 700, une déportation en Assyrie. Est-ce que cela a servi au royaume de Juda? Aucunement. Jérémie va parler de la perfide Juda, qui va pécher plus encore la tribu de Juda, celle dont est issu Jésus. Celle qui a reçu les promesses, eh bien, elle va encore dériver plus loin et elle sera déportée à Babylone. Malgré les exhortations de Jérémie, de tous les prophètes qui annoncent et qui toujours disent « mais Dieu vous aime, il annonce ce jugement, mais il ne veut pas qu'il se produise ». Et nous assistons à cet endurcissement avec ce verset que vous connaissez bien. « Non, nous ne t'écouterons pas, Jérémie. Nous ferons ce qui nous semble bon. Nous continuerons d'adorer nos idoles. Nous continuerons. » Il y a un enfermement qui aboutit à un jugement. Mais ce jugement n'est jamais dernier. Avec Dieu, il y a toujours une promesse de restauration. Quel Dieu nous avons! Quelle patience! Et si j'ai pris ce temps avant de lire le texte de Daniel, c'est pour qu'on comprenne bien le contexte, qu'on comprenne bien dans quel contexte ce peuple est envoyé en exil à Babylone. Babylone, une cité extraordinaire, tout le fruit de l'intelligence divine de l'homme, sans Dieu. Babylone, extraordinaire. Les jardins de Babylone, lieu de tourisme. Babylone, une cité extraordinaire. Est-ce que cela ne rappelle pas le monde où nous vivons? Quelle prouesse technique, technologique, sociologique, informatique, la communication extraordinaire. Quelle sophistication, quelle intelligence dans l'homme. Mais quelle opposition à Dieu. C'est dans cette cité-là que le peuple de Dieu va être exilé et va pleurer. Voilà comment Daniel, ce jeune homme, élevé dans la fidélité à Dieu, va se retrouver embarqué, si j'ose dire, dans cette histoire. Et là, je vous invite à lire, effectivement, dans le livre du prophète Daniel, nous allons lire le premier chapitre. Livre de Daniel, chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les unit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et que l'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors, quelques remarques déjà sur ce texte. Dans les versets 1 et 2, il nous est dit, ça m'a marqué, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et le verset 2 nous dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Ce qui montre que nous avons là un jugement de Dieu. Ce n'est pas la première fois que des nations impies marchent contre Jérusalem. Il y a eu d'autres, Sanchérib, etc. Mais cette fois-ci, parce que la parole du prophète n'a pas été écoutée, parce qu'il n'y a pas eu de retour à Dieu, cette fois-ci, il est dit, c'est le Seigneur livra. Les royaumes auraient pu tenter tout ce qu'ils voulaient, mais là, le Seigneur a levé sa main. Le Seigneur livra. Donc nous voyons bien, il l'a annoncé. Il a annoncé à son peuple, puisque tu résistes, puisque tu persistes, je te livre. Et Dieu accomplit. Les versets 3 à 7 sont intéressants parce qu'ils nous montrent la description tout simplement d'une procédure d'endoctrinement largement pratiquée aujourd'hui et dans toute l'histoire. Dans le fond, quand un pays vient conquérir un autre pays, eh bien, ils ne sont pas fous, enfin, aux yeux de Dieu, si, Mais qu'est-ce qu'il faut? Il commence par prendre l'élite. Il nous est dit, Nebuchadnezzar a ordonné de prendre des jeunes gens, et oui, c'est l'avenir, de prendre des jeunes gens, de familles royales ou de familles nobles, déjà instruits, déjà éduqués. Et les jeunes gens d'Israël étaient élevés dans la crainte de Dieu, des jeunes gens qui connaissaient l'Écriture, des jeunes gens qui connaissaient leur Dieu. C'est le cas de Daniel, très clairement. Et il y a un programme qui est prévu sur 3 ans, ici. C'est une formation de disciples pour le royaume de Babylone. Qu'est-ce qui est fait? Premièrement, à travers un changement de nom, on voudrait opérer un changement d'identité. C'est clair et net. Et ces jeunes gens ne peuvent s'y opposer. Ensuite, ils ont un traitement spécial au niveau nourriture. J'avais noté dans mon texte, ils sont tout de suite admis au restaurant de direction. Vous savez, dans les entreprises, souvent, il y a la cantine, puis il y a le restaurant de direction. Ah, on aurait invité au restaurant de direction. Tout de suite, ils sont invités au restaurant de direction avec les meilleurs mets, du vin, etc. Voilà ces jeunes gens, au QI élevé, on pourrait dire, beau de figure, instruits et capables de suivre l'ENA. Apprentissage de la langue, fondamentale. Juste une parenthèse, vous savez, aujourd'hui, il y a une négligence organisée de ces choses pour que nos enfants et petits-enfants maîtrisent de moins en moins bien la langue. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise la langue, il y a un pouvoir, dit dans la Bible. Soit c'est la parole de Dieu qui sort et elle vient délivrer. La parole du juste, une puissance pour délivrer. Soit c'est la parole qui vient de l'adversaire. Elle est là pour lier, pour embobiner. Notre président a passé hier, je crois, plus de 12 heures au salon de l'agriculture. Eh bien, il faut reconnaître une chose. C'est qu'il connaît le sens des mots, il maîtrise la langue et il sait la manier. Donc l'apprentissage de la langue, c'est fondamental. Une petite parenthèse, et Nebuchadnezzar ne s'y trompe pas. Il faut qu'il y ait une acculturation de ceux qu'il a pris. Que peut faire Daniel et ses compagnons? Daniel va prendre position sur une chose qui paraît mineure. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et le vin dont le roi buvait. Alors, certes, ces mets ont dû être consacrés à des idoles. En tout cas, ces repas ne se passaient certainement pas sans un culte aux idoles, etc. C'est un premier aspect. Mais je crois aussi que Daniel connaît les Écritures. Mais venu en préparant ce message, il disposait, je pense, des proverbes qui ont été écrits par Salomon, donc bien avant. Et il y a notamment un proverbe, je veux par là nous encourager à lire vraiment la parole pour que nous soyons fondés. Dans Proverbe 23, il y a quelque chose d'intéressant. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Et un peu plus loin, au verset 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Plus loin dans le livre de Daniel, il nous évoquait dans les visions qu'il a, tous ces royaumes qui vont se succéder. Il est dit à un moment, royaume du nord, royaume du sud, il y a une alternance d'alliances selon l'homme, et puis de moments de tension. Là aussi, ça nous rappelle ce qui se vit aujourd'hui au niveau des nations, tous ces efforts. Il est dit à un moment, ils mangent à la même table, Ils se parlent, mais ils ne croient ni les uns ni les autres à ce qu'ils racontent. Je ne peux pas vous lire tous les textes, mais lisez-le. Ils mangent, ils négocient. Est-ce que ça ne nous rappelle pas les temps où nous sommes? Ils mangent, ils négocient, ils font des réunions. L'un pense à son pétrole, l'autre à ses technologies. L'Occident refuse Dieu, le royaume du Sud sous les puissances de l'islam. On se parle, mais chacun a une arrière-pensée. Daniel connaît ces textes. Et je pense, ça m'a touché, je crois que c'est pas simplement, il a une profonde conviction. Il ne veut pas se souiller. Et sur cette question des aliments qui pourrait paraître secondaire, il prend position. Alors il aurait pu le faire en invoquant aujourd'hui, je suis végétarien. Ça, c'est une explication qui passerait. Moi, je ne mange pas de viande. Je suis végétarien, je suis écolo, je suis machin. Et demain, ça va être je suis végane. Et ça passera, ça. Non. Il est clair, je ne veux pas me souiller avec les mains du roi. Cette position que prend Daniel n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas simple, la position qu'il prend. Pourquoi? Je vais examiner simplement vis-à-vis, premièrement, de ses amis qui sont avec lui. Deuxièmement, de l'intendant qui a été chargé par Nebuchadnezzar de s'occuper du régime alimentaire, entre autres, de ces déportés, n'oublions pas. Déportés de luxe, mais déportés quand même. Pour ses amis, le texte nous rapporte que c'est Daniel qui prit une résolution de ne pas se souiller. Rien ne nous est dit sur la position de ses jeunes camarades. Or, le texte nous montre qu'ils étaient bien, ils faisaient un lot, là. Ils étaient ensemble dans cette situation. S'ils étaient un peu moins convaincus que Daniel, peut-être y a-t-il eu débat. Dis donc, Daniel, tu ne vas pas un peu fort, ça va être compliqué pour nous. Et je voudrais dire ce matin, lorsqu'on est jeune, mais aussi peut-être moins jeune, combien il n'est pas facile de se démarquer, tant sont puissantes les pressions de toutes sortes aujourd'hui. Et des fois, prendre position sur une chose qui paraît mineure, peut-être on va se taire par crainte. Pour Daniel, ça ne devait pas être facile. Le risque de perdre ses amis ou de gérer un désaccord. Le Seigneur veut nous délivrer de cela. Pour l'intendant maintenant, il est dit que Daniel trouva grâce aux yeux de l'intendant. Pourtant l'intendant lui dit ce que tu me demandes est bien difficile. Je suis soumis à l'eunuque, qui lui-même est soumis à Nebuchadnezzar. Moi, je suis chargé de la partie intendance. Excusez-moi, mais il est pris entre le marteau et l'enclume. Cette simple demande de Daniel met le système hiérarchique de Nebuchadnezzar dans une position délicate. Et l'intendant ne se trompe pas, il dit... Moi, si je vous présente à Nebuchadnezzar et que vous avez les traits un peu tirés, il va me demander avec quoi vous les avez nourris. Autre situation, ça. Dans nos vies, lorsque nous sommes, parce que nous sommes en exil, on est bien d'accord, lorsque nous sommes dans nos vies professionnelles, dans nos vies sociales, dans nos vies familiales, les positions que l'on va prendre ne sont pas sans conséquences, ni pour ceux que nous aimons, ni pour ceux à qui nous sommes soumis, pour autant que ce ne soit pas contraire à Dieu, dans le travail. Et voilà le problème où on est aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de situations professionnelles aujourd'hui, je crois que de plus en plus de personnes parmi nous vont se retrouver dans des situations délicates. C'est un fait. Je ne vais pas détailler tout ça ce matin, mais enfin, toutes les professions médico-sociales et d'enseignement, pour ne prendre que celles-là, je sais qu'il y en a quand même parmi nous, se trouvent dès aujourd'hui dans des situations où les convictions, s'ils appartiennent à Christ, sont totalement opposées aux lois qui sont aujourd'hui de plus en plus antéchrist. Quelques exemples, le monde médical. Quid de quelle est ma position en tant que médecin, infirmier, aide-soignante, lorsque sont évoquées les questions de l'anesthésie par hypnose, de tout le traitement de l'homéopathie, de la détente par les techniques de yoga, etc., etc. Je ne parle pas de tout ce qui est des moyens contraceptifs, de la PMA, je ne me lance pas dans tout cela. Vous pouvez consulter des sites qui sont très, très bien faits, pour le coup, le CPDH, etc. On pourrait s'étendre, ce n'est pas mon propos ce matin. Mais nous voyons combien nous avons du mal à un moment, mais on sent bien qu'à un moment, on a à prendre position. Je crois que le texte de Daniel veut nous encourager, si on est bien clair, si on connaît la parole de Dieu. Parce que notre pensée humaine, même nos philosophies, nos systèmes de valeurs, ne suffisent plus aujourd'hui pour nous diriger dans ces méandres. Nous avons besoin de connaître la position de Dieu sur ces choses. Alors, sur des choses qui paraîtront peut-être bénignes, des moments où il s'agira, le courage demandera de se taire, à d'autres moments, le courage nous demande de parler. Il est des moments où le courage nous demande de nous taire pour manifester notre différence avec respect et attitude. Lorsque des positions grossières ou antéchristes ou des propos, comme on peut en entendre, sont donnés, est-ce qu'on va rire? Est-ce qu'on va s'asseoir avec les moqueurs ou est-ce qu'on va se tenir silencieux, comme le Seigneur nous le demande? Et dans d'autres situations, où des conversations, où la pensée du monde, la pensée médiatique qui sert de base à beaucoup de choses aujourd'hui, et qui pose comme une évidence, que la fidélité dans le couple, que ce sera, c'est complètement dépassé. Est-ce que nous nous tairons ou est-ce que nous dirons avec sagesse, respect? Je ne suis pas d'accord avec cela. Daniel résolu dans son cœur de ne point se souiller. L'enjeu est important. Le sujet peut paraître petit comme ça. Et nous avons déjà vu qu'il demandait du courage. Il demandait d'être bien fondé en Dieu. Daniel connaît son Dieu. David aussi. Daniel connaît son Dieu d'une manière solide, certaine. Nous voyons dans la suite du livre Daniel que cette première prise de position accompagnée de sagesse. Parce que finalement, Daniel va dire à l'intendant, « Eh bien écoute, voilà ce que tu vas faire. » Il a une autorité du coup. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confondu. Sera confondu celui qui est infidèle sans cause. Daniel connaît son Dieu, il respecte cet homme, il a compris la situation. Il va lui dire ce que tu vas faire. Tu vas amener les mets, tu vas les mettre de côté, tu vas nous donner des légumes. Et puis on prend 10 jours et on se donne rendez-vous dans 10 jours. Il n'a pas joué les matamores. Moi je connais le Seigneur et voilà. Non, voilà ce qu'on va faire. Tu mets les mets de côté, tu nous amènes des légumes et on verra dans 10 jours. Vous avez vu le résultat? quand ils ont été présentés à Nebuchadnezzar, ils étaient mieux que les autres. Et en plus, Dieu honore cela. Dieu honore les a remplis de l'Esprit de Dieu qui permet de discerner, de connaître, etc. Ça, c'est le premier stade. Mais cette position de Daniel va avoir des conséquences extrêmement importantes pour ses jeunes amis. Car quelque temps après, ces jeunes amis dont je rappelle, nous ne connaissons pas quelle était leur position. En tout cas, ils ont été entraînés et dans la bonne voie par Daniel. Quelque temps après, Nebuchadnezzar édifie une statue immense, ça se pratique toujours, et ordonne dans tout son royaume. Il faut bien voir que le royaume de Nebuchadnezzar, Babylone, ce n'est pas un petit empire. Hein. C'est à peu près la totalité des terres connues à cette époque. Je rappelle que dans la statue que Nebuchadnezzar a en vision, c'est la tête d'or. Tous les royaumes qui vont suivre seront des royaumes qui auront moins de gloire, quelque part. Y compris Rome, y compris la Grèce. Donc c'est pas rien. Eh bien, Nebuchadnezzar se fait élever une statue. Et il ordonne à ses satrapes, à ses ministres, à ses préfets, si vous voulez, que partout dans le pays, c'est intéressant, il y aurait aussi un message à faire là-dessus, au son des saltimbanques, de la trompette, de la harpe, etc., et du psaltérion et compagnie, au moment où ça sonnerait, tout le monde doit se prosterner et adorer. Bien sûr, nos amis ne vont pas s'incliner. Mais ils sont sous surveillance. Ils sont sous surveillance. C'est des déportés. On les a pris parce qu'ils étaient intelligents, mais enfin, quand même. C'est des croyants dans le Dieu d'Israël. Donc on les a à l'œil. Je vais vous dire une chose. Comme aujourd'hui, nous sommes libres. Les pouvoirs publics nous ont à l'œil. Frères et sœurs, nous parlons librement aujourd'hui. Et nous continuerons de le faire. Mais les pouvoirs publics nous ont à l'œil. Pas se gourer, hein. On nous envoie des petits papiers. Au nom de la sécurité contre le terrorisme, on est sommé de répondre. Au passage, ça permet de bien identifier qu'on existe. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc ils ont l'œil. Et les satrapes disent à Nebuchadnezzar, bien sûr, pour que tout se passe en bon ordre. Dis donc, tu as bien ordonné qu'il fallait se prosterner devant la statue. Les Juifs, là, qu'on est en train de former, on va te dire une chose, ils ne se prosternent pas. Et là, on va lire, dans Daniel 3, quelques versets, parce que Nebuchadnezzar est embêté, il a ses jeunes gens, là, qu'il est en train de former, qui l'intéressent bien. Vous savez que c'est quelque chose de permanent, historiquement, juste une petite parenthèse, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'ont fait les libérateurs de l'Europe? Ils ont pompé les cerveaux en Allemagne. Hein. Je citerai juste une chose, parce que je me suis beaucoup intéressé à ça à une époque sur les fusées, sur le plan de conquête de la Lune. Werner von Braun, c'est le père des V2. Mais c'est aussi le père de la Saturne V qui a emmené les hommes sur la Lune. Rien de nouveau sous le soleil. Attendez, la Bible, c'est très très actuel, c'est très riche. Alors donc voilà, quelques temps après, nous allons lire ça dans Daniel 3. Je ne lis pas tout, roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or, etc. Haute de 60 coudées, 30 mètres, on fait beaucoup mieux aujourd'hui. Il n'y a pas de problème en Corée du Nord, et pas seulement, en Inde aussi. Donc il n'y a pas de problème, on fait mieux, la technologie s'est encore améliorée. Et au verset 15, bon, Nebuchadnezzar les somme une nouvelle fois à leur dire, écoutez, « Inclinez-vous maintenant devant ma statue. » Il refuse toujours. Et là, il commence à s'énerver. Et au verset 15, il dit ceci. « Maintenant, dit Nebuchadnezzar, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Là, ce coup-ci, il émet, la position est claire et nette. Shadrach, Meshach et Abdelnego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, écoutez bien, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. La suite de l'histoire, c'est que les trois amis ont été jetés dans la fournaise et n'ont point brûlé, ils ne sentaient même pas la fumée. Par contre, ceux qui ont jeté dans la fournaise, avec le retour de flamme, ont été tués. Bon. C'est intéressant. La confession de foi de nos jeunes amis. Première remarque, je pense que s'ils n'avaient pas vécu cette première position où Daniel les a conduits, est-ce qu'ils auraient pu résister à cette situation? Ils ont été fortifiés dans leur foi. La réponse qu'ils donnent est intéressante. Premièrement, ils disent au roi, et pourtant ils ont une attitude soumise, respectueuse de l'autorité. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, à la question de Nebuchadnezzar, quel Dieu vous délivrera, il commence par dire, on n'a pas à te répondre là-dessus. C'est un autre domaine. Et ensuite, ils ont une réponse avec quatre points dans leur réponse. Premièrement, le Dieu que nous servons peut, ce n'est pas doit, c'est il peut nous délivrer de quoi? De la fournaise. C'est-à-dire qu'il peut nous délivrer de la mort que tu nous programmes. Il peut nous délivrer, il peut faire en sorte que nous n'allions pas jusqu'au martyr, en clair. Il le peut. Il ne doit pas, il le peut. Est-ce un manque de foi? Non. Respect. La souveraineté de Dieu qui est là. Par contre, ce qui n'est pas conditionnel, c'est ce qu'ils disent. Il nous délivrera de ta main. Ça veut dire quoi en clair? On ne sait pas si Dieu fera un miracle pour nous sortir de la fournaise. Mais grosso modo, il y avait deux solutions possibles. Ils allaient jeter dans la fournaise, ça c'était clair. Ou Dieu les sort miraculeusement de la fournaise, ou ils meurent dans la fournaise. Mais qu'est-ce qu'ils disent en disant « De toute façon, il nous délivrera de ta main ». Eh bien, ils proclament déjà, ou du moins ils manifestent, qu'ils croient en la vie éternelle. Ils savent que pour eux, même mort, il y a un après. Comme Abraham avec Isaac. Il a offert, et Paul va nous dire, il croyait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, et nous l'avons proclamé. Il nous délivrera, futur, non conditionnel, de ta main. Et je crois que c'est là ce qui permet à nos jeunes amis de tenir bon dans l'épreuve. Et c'est cela qui nous permettra de tenir dans l'épreuve si nous savons réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Pas comme un zombie, corporellement, dans son corps de gloire. C'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, Jésus-Christ est ressuscité. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous ressuscitera par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous voulons tenir, aujourd'hui, pas demain, il faut que nous soyons fondés, que nous sachions ces choses, pas simplement de les apprendre par cœur, mais qu'il y ait une révélation, une attestation dans nos cœurs et que rien ne nous empêchera de le savoir, quelles que soient les pires des situations que nous pourrons rencontrer. Il nous délivrera de ta main. Il nous délivrera de la main de la puissance de l'esprit de ce monde qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Troisième point. Toujours pareil, au futur. C'est pas conditionnel. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est bien plus que la puissance d'argent. C'est la puissance qui règne sur ce monde aujourd'hui. Nous ne pouvons servir de maître. Nebuchadnezzar a emmené les objets du culte et les a ajoutés aux objets de leur culte de Dieu. Il a mis Dieu parmi les dieux. C'est ce que feront aussi les Samaritains. Ils servaient le Dieu d'Israël, mais ils continuaient de servir leur autre Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ça. Ce n'est pas possible. Nous perdons alors toute puissance. Toute puissance. C'est la puissance de l'expiation et de la séparation qui donne la force à son peuple. Et donc, quatrième point, nous ne nous prosternerons pas devant les statues. Une telle position ne peut être tenue, je le rappelle, que par une vraie connaissance de Dieu, fondée. Je rappelle souvent aussi que si nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de faire dans certaines situations, la parole nous donne quand même très clairement ce que Dieu déteste par-dessus tout. Que nous enseigne aussi ce passage, cette position à la fois de Daniel et de ces trois jeunes gens. Aucune exigence envers Dieu, mais une pleine confiance. Je l'ai dit, ces jeunes gens savent et ont une espérance comme Abraham. Alors, pour conclure, je vais donner quelques points très pratiques. Ne différons pas nos résolutions en disant « Lorsque viendra des situations difficiles, je serai prêt. Je connais la parole, je connais Dieu. Je prendrai position. Mais pour l'instant, je diffère. » Non. Ne croyons pas que si aujourd'hui, dans ce qui nous est donné à vivre, là où chacun nous sommes placés, nous négligeons, nous laissons filer deux, trois trucs, ne croyons pas que nous aurons la force lorsque les temps seront plus complexes. Vous savez, je crois qu'on est dans les tribulations. Ça mériterait vraiment de s'y arrêter, mais les choses vont à une telle vitesse. Ce qui se passe, vous savez, dans notre pays en ce moment, c'est intéressant. Hein, il y a la rébellion, mais vous voyez la puissance vraiment antéchrist de ce royaume, de cet empire romain, grec. C'est intéressant, les quatre empires dont il est question dans Daniel, là, si je ne vais pas faire un thème là-dessus, mais Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, Rome. Simplement, Grèce et Rome. C'est la pensée, clairement, de l'Europe, qui a été exportée largement. La pensée rationaliste. La pensée de l'hédonisme. De la recherche du plaisir, de l'accomplissement de soi. La Grèce. La pensée, aussi des pensées sur le culte du corps, la Grèce, les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rassemble les foules? Nous sommes très, très avancés. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas sur ce à quoi nous passons notre temps. Peut-être je parais austère. Qu'importe. 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 L'emprise J'y reviens, mais il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. L'emprise des écrans sur nos jeunes et nos moins jeunes. Frères et sœurs, ça cause une ruine. Amenons, c'est plein de nos cœurs. Je prie, Seigneur, que vraiment on puisse travailler sur ces sujets qui sont au milieu de nous. Mais c'est terrible. C'est pas un cas isolé. Et je ne parle pas de la ruine même matérielle que cela peut amener. Avec des notes de téléphone, de machin. C'est très pernicieux. D'une situation concrète qui m'était apportée il y a quelque temps, j'ai regardé un petit peu quel recours il y avait, par exemple, auprès d'un opérateur lorsque on s'est fait avoir, ou qu'un enfant a joué avec une télécommande, avec je ne sais pas quoi, et nous voilà avec des notes de téléphone de 250, de 300 euros. J'ai regardé les textes. À partir du moment où c'est des petites sommes de 2, 3 euros à la fois, dépenses courantes, aucun recours, aucun recours. Parce que là, ceux qui dispensent et qui poussent pour que les enfants aient des gros, ils expliquent, ah, mais vous êtes responsable de vos enfants. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Le commerce, l'esprit du monde n'est pas là pour... Revenons à ces choses. Et là, je crois que le corps de Christ, il a quelque chose à faire. Pour tous ceux qui sont seuls, qui se dépatouillent des fois, et qui se laissent avoir. Quelle emprise. Nos jeunes gens connaissaient les choses et les mettaient en pratique. Donc, premièrement, ne différons pas. Pensons pas que demain, on sera fort. Alors qu'aujourd'hui, on s'écarte. On se défausse. Examinons chaque situation de nos vies. On a des décisions à prendre, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans l'engagement, dans un mariage, qu'elles soient dans un choix d'une ville habitée, dans un choix d'études, etc. Qu'est-ce qui est premier, dans le fond ? Ça concerne les jeunes, ça concerne aussi les parents. On dit, mais Dieu, mais est-ce que finalement, la réussite de nos enfants, avec des postes, avec des bonnes filières, avec des machins, etc., quelle place ça a ? J'ai pas dit qu'il fallait pas se réjouir. J'ai dit, attention, attention. Le Seigneur nous demande de prendre une résolution dans notre cœur. Nous savons, nous n'avons pas la force pour l'accomplir nous-mêmes. Mais c'est notre part. Et ça, c'est devant Dieu que chacun doit le faire. Daniel, résolu dans son cœur. Alors Dieu l'a secouru. Parce que celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile, Seigneur. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu es le vivant au siècle des siècles. Et Seigneur, tu es le premier ressuscité d'entre les morts, Seigneur. Seigneur, nous saisissons ce matin cette promesse que quoi qu'il nous arrive, Seigneur, que nous soyons jetés dans toutes sortes de fournaises, Seigneur, que tu nous en délivres ou que tu ne nous en délivres pas, Seigneur, tu nous as délivrés des liens de la mort et tu le feras, Seigneur, en nous ressuscitant aussi d'entre les morts lors de la première résurrection. Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment que tu renouvelles en nous la soif de te connaître tel que tu es, tel que tu te révèles par ton esprit à travers ta parole. Viens fortifier ton peuple, Seigneur. Non pas pour qu'il soit reconnu vis-à-vis des autorités de ce monde, mais qu'il soit connu de toi, qu'il puisse entendre ta voix, marcher pas à pas avec fidélité. Que comme Daniel, aujourd'hui, nous prenions des résolutions dans notre cœur de te rester fidèle par ton secours, par ta grâce que tu veux accorder en abondance. Sois béni, sois loué, Père. Amen.